RFI TV5 Monde vous présente Afrique Presse, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Joachim Vokuma d'Enjeux Africains et Hichem Ben Yaïch de New African Magazine. Au sommaire, le Mali, près de 100 morts, c'est le bilan de l'attentat à Gao. Attentat revendiqué par Al-Mourabitoun, proche d'ACMI. En Gambie, toujours pas de sortie de crise en vue, malgré les médiations marocaines, mauritaniennes et guinéennes. En prêtant serment à l'ambassade de Gambie à Dakar, Adama Barrow devenait le troisième président de la République islamique de Gambie. Enfin, l'Union africaine, 33 ans après avoir quitté l'Union africaine, le Maroc annonce son retour au sein de l'organisation panafricaine. Elle interviendra au cours du sommet prévu le 30 janvier, sommet au cours duquel devrait être désigné le prochain président de la Commission panafricaine. Une centaine de morts et de nombreux blessés, c'est le bilan de l'attentat survenu cette semaine à Gao, dans le nord du Mali. Un attentat qui survient une semaine après la visite de François Hollande aux troupes françaises basées dans cette localité. Visite effectuée en marge du sommet Afrique-France, dont le thème était « Paix, sécurité pour l'émergence ». Le reportage de Benjamin Delombre.
Les corps des victimes sont évacués à bord de ces véhicules. Sur ces photos, des dizaines de cadavres jonchent encore le sol. Voici les premières images tournées quelques minutes après l'attentat. On découvre le cratère provoqué par l'explosion. Sur ce cliché, on aperçoit un immense panache de fumée. On mesure la puissance du souffle. Les cinq assaillants pénètrent dans un camp militaire situé à Gao, dans le nord du Mali. Ils circulent à bord d'un véhicule piégé qui explose au milieu des soldats.
Moi, puisque moi, j'étais juste au fond, je voyais le véhicule qui a franchi, qui a forcé la porte. C'est comme s'il a monté sur des gens d'abord, et puis paf.
Les soldats tués appartenaient à ce bataillon filmé il y a quelques jours. Des groupes Touareg alliés à des militaires pro-gouvernementaux, leur force symbolisait l'accord de paix au Mali. L'attaque intervient une semaine après la visite de François Hollande auprès des militaires français engagés dans la lutte contre le terrorisme.
Cet attentat est aussi une provocation vis-à-vis de la France, en disant, vous voyez, vous avez beau nous menacer, on arrive à faire une opération qui décapite carrément tous ces groupes armés qui ont signé l'accord de paix d'Alger de juin 2015.
L'attentat a été revendiqué par Al-Mourabitoun, un groupe lié à Al-Qaïda.
Hassan Diop, cet attentat qui est le plus meurtrier depuis le début de la crise malienne va rappeler au Mali et à ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme que la bataille est loin d'être gagnée.
La bataille de la paix finalement. C'est, je crois, au centre des préoccupations de tout le monde et c'est aussi au centre, bien entendu, de cet accord scellé il y a une vingtaine de mois à Alger qui était donc censé ramener la paix dans cette partie du Mali qui est, rappelons-le, sous la coupe de groupes armés. Une fois que les Français ont repoussé les djihadistes, divers groupes armés ont occupé le terrain, notamment à Kidal. Et c'est ces mouvements qui ont signé l'accord de paix d'Alger, qui était donc censé, avec des groupes favorables au gouvernement du Mali, avec des militaires maliens, former ce mécanisme opérationnel de patrouille. Et donc, c'est ce mécanisme qui a été visé. Alors évidemment, la revendication, on l'a dit dans le sujet, vient du groupe Al-Mourabitoun lié à ACMI de Belmokhtar. D'un autre côté, on a dit également que c'était peut-être un défi ou un bras d'honneur à la France, parce que à la veille du sommet Afrique-France,
François Hollande s'est rendu à Gao
et que la principale base opérationnelle, effectivement, des militaires français au Mali se trouve à Gao. Je pencherai plutôt par le fait qu'effectivement que ça illustre ces dissensions qui existent au sein même de ces groupes armés. Ces groupes armés ont signé, mais déjà une partie de la base, une partie de la population du Nord Mali, la population Touareg en particulier, n'adhère pas à cet accord. Et on a vu qu'ils se sont parfois combattus, il y a eu des sursauts, il y a eu des pics même de tension avec des morts. Et je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut effectivement peut-être rechercher la cause de ce carnage. Le risque, effectivement, c'est de voir ce processus, finalement, d'Alger vers la paix, que ce processus n'aboutisse jamais, en tous les cas pas dans les délais attendus.
Hichem Ben Yaïch, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui pour les autorités maliennes ?
moyen pour pouvoir entrer dans un processus de dialogue et surtout de se donner les moyens pour traquer un terrorisme qui s'est transmuté et qui aujourd'hui est flexible, agile et qui se dissémine un peu partout. Et c'est ça, à mon avis, le danger pour le Mali aujourd'hui.
Jacques Mbokouma, au sommet de Bamako, François Hollande s'est félicité de l'action de l'opération Barkhane dans le nord du Mali. Cet attentat vient montrer que malgré la présence de l'opération Barkhane, il y a encore beaucoup reste à faire.
Oui, tout reste à faire, notamment l'application de l'accord d'Alger qui a été signé le 15 mai de 2015. Comme disait Hassan Diop tout à l'heure, l'accord n'a jamais fait l'objet d'un consensus aussi bien du côté malien, enfin du côté du gouvernement, que du côté des groupes, des différents groupes qui composent la rébellion au nom qui ont occupé le pays. Et on sait depuis l'accord que l'administration malienne n'est pas encore parvenue à se déployer et il y a eu une tension entre les autorités, en tout cas l'opinion malienne, et les autorités françaises, qu'ils considèrent comme une zone qui leur échappe. Voilà une zone de non-droit. Et ce qui vient de se passer, c'est effectivement la preuve que effectivement, la paix reste encore à conquérir. On a repoussé, Barkhane a permis de repousser de façon rapide les groupes qui étaient constitués, qui avaient occupé le nord, qui commettaient des exactions. Mais on voit bien que la paix, c'est une affaire d'administration. Il faut que les préfets, les gouverneurs retrouvent leur poste, et à ce moment-là, avec un certain nombre de dispositifs qu'ils peuvent mettre en place, de coordination, d'information avec la population, ils peuvent combattre ces troupes-là. Mais l'administration n'est pas présente au nord du Mali. Et c'est une zone qui est encore entre les mains de ces troupes. Et l'armée française, ou avec l'opération Barkhane, ou avec les troupes de l'ONU, qui sont déjà sur place, ne parviennent pas à les contenir. C'est quand même surprenant que l'attentat ait lieu à l'intérieur de la base. C'était pas la première fois d'ailleurs. En novembre 2016, il s'était déjà passé la même opération d'attentat dans la même base. Donc il se pose qu'il y a quand même un problème.
On reviendra sur cette actualité malienne. À présent, en Gambie, le nouveau président s'appelle Adama Barrow. Il a été investi hier à l'ambassade de Gambie à Dakar. C'est inédit, mais cela traduit la détermination de la CEDEAO à soutenir le vainqueur de l'élection présidentielle face à Yahya Jammeh qui s'accroche au pouvoir. Le reportage de Julien Muntzer.
Vêtu de l'habit blanc traditionnel, prêtant serment sur le Coran, c'est dans l'ambassade de Gambie à Dakar qu'Adama Barrow a pris officiellement ses fonctions de président. Et ses premiers mots sont un appel au ralliement et à l'union.
J'appelle donc tous les civils et les militaires du pays à reconnaître ma présidence, puisqu'elle s'appuie sur la Constitution. Ils ne seront soumis à aucun traitement discriminatoire ou illégal.
Une cérémonie qui s'est achevée juste avant un vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Un soutien unanime est apporté à la CEDEAO dans son action pour résoudre la crise gambienne. Mais ce vote n'autorise pas formellement une action militaire.
La résolution est claire. L'ancien président Jammeh doit respecter la décision du peuple gambien et immédiatement remettre le pouvoir. Jusqu'à présent, son refus de quitter ses fonctions ne fait qu'apporter l'incertitude au peuple gambien.
L'intervention armée, une possibilité à laquelle se prépare la CEDEAO depuis des jours. Le Nigeria a envoyé près de 200 hommes à Dakar, des avions et un navire de guerre. Sous l'égide de l'armée sénégalaise, c'est donc 7000 hommes qui sont massés aux frontières. En fin de journée, des colonnes de véhicules militaires sont aperçues sur les routes gambiennes. Mais l'avancée est rapidement stoppée par la CEDEAO. Une dernière médiation va être tentée sous la conduite du président guinéen Alpha Condé. Malgré les efforts diplomatiques et la pression militaire, Yahya Jammeh ne semble toujours pas vouloir négocier une sortie de crise pacifique, préférant jouer la carte du chaos.
Hassan Diop, après les médiations marocaines et mauritaniennes, la médiation guinéenne apparaît comme la médiation la dernière chance. Mais l'usage de la force ne fait-il pas courir le risque d'un embrasement, car une partie de l'armée gambienne est toujours fidèle à Yahya Jammeh?
Oui, alors d'abord, en ce qui concerne la médiation de la dernière chance, je pense que c'est une option de sagesse. Le Sénégal et les opérations militaires de la CEDEAO ont été stoppées, donc pour laisser au président, au chef de l'État guinéen, le temps de négocier l'ultime possibilité peut-être de sortir de cette crise sans effusion de sang. Quant à l'intervention armée, au cas où Yahya Jammeh, au moment où nous parlons, on ne sait pas si ça va aboutir ou non, au moment où nous parlons ce vendredi matin, Toujours est-il qu'à propos de cette médiation, soulignons tout de même que Yahya Jammeh a toujours dit, je crois, que le seul chef de l'État de la région qu'il respectait peu ou prou, c'était le chef de l'État guinéen,
Alpha Condé.
Alpha Condé, qui a toujours appelé effectivement à une solution négociée, plutôt qu'au recours de la force, comme l'ont clamé pas mal d'autres dirigeants de la région. Donc peut-être pour éviter d'en arriver à cette extrémité du recours à la violence, il faut que le président guinéen soit persuasif, parce que comme les autres, il est tout à fait sur la ligne et sur la même ligne que les autres. Yahya Jammeh a perdu cette élection. Alors brièvement, en ce qui concerne le recours à une opération militaire, ce serait vraiment, je dirais,
le dernier recours,
le dernier moyen de pression sur Yahya Jammeh, qui lui-même avait admis avoir perdu ses élections, etc. Alors, dans la résolution adoptée hier par le Conseil de sécurité de l'ONU, on ne fait pas mention du chapitre 7 de la charte de l'ONU, c'est en permettant de recourir à la force. Mais on peut penser, par exemple, aussi que le chef de l'État, reconnu aujourd'hui par la communauté internationale,
Adama Barrow,
peut demander l'aide du Sénégal, l'aide militaire sénégalaise, en vertu d'accord, effectivement, pour ramener l'ordre dans son pays et à la CEDEAO.
Mais cela peut être perçu aussi comme une ingérence du Sénégal.
Non, oui, mais à l'appel du chef de l'État.
Absolument. Joachim Vokuma, des voix comme celle du président ougandais, Yoweri Museveni, s'élèvent contre cette intervention militaire qui, selon lui, rappelle l'intervention militaire survenue en Côte d'Ivoire en 2010.
Oui, alors je suis pas totalement d'accord avec ce que disait Hassan Diop tout à l'heure, parce que même si le Conseil de sécurité ne donne pas l'autorisation, la résolution qui a été votée, ça n'empêche pas la CEDEAO d'intervenir militairement. Le dispositif de l'ONU consiste à déléguer d'abord la gestion des conflits aux régions. Si la CEDEAO estime qu'elle est capable...
Le recours à la force, ça c'est clair et net. Le recours à la force...
C'est l'ultime recours.
À la force d'un pays contre un autre pays ou d'un groupe d'États contre un autre pays, il faut en passer obligatoirement par le chapitre 7, sauf si le pays a des accords militaires passés avec ses partenaires.
Hichem Ben Yaïch, faut-il donner des gages à Yahya Jammeh?
Évidemment, de toute façon, les options de son départ sont déjà proposées. Soit il va avoir un exil au Maroc ou au Qatar. Maintenant, c'est la négociation avec le président guinéen qui va nous permettre de voir clair. Et de toute façon, il y aura toujours une solution à travers soit une action militaire ou son départ consenti.
Juste un mot pour rebondir sur ce que disait Atiyan Diop. Là, je suis d'accord avec lui. Il y a eu une précipitation des ONG, certaines ONG et des opposants pour dire qu'il faut le poursuivre en justice et l'arrêter, enfin, voilà, le menacer, alors qu'il a derrière lui des généraux et des gens
une armée qui lui reste fidèle.
Il n'y avait rien rien n'était pressé. D'où vient cette précipitation à le condamner à l'avance, sachant qu'il est encore au pouvoir? Je pense qu'il y a une psychologie africaine, ou en tout cas
camerounaise,
qui n'a pas été respectée, et c'est ce qui, malheureusement, nous conduit à cette situation.
33 ans après avoir claqué la porte de l'Union africaine, le Maroc va réintégrer l'Organisation panafricaine. Ce sera à l'occasion du prochain sommet, prévu le 30 janvier à Addis Abeba. Je vous propose d'écouter la déclaration du roi du Maroc. C'était à Dakar, au cours de la visite qu'il a effectuée au mois de novembre.
La réintégration du Maroc dans l'Union africaine n'est pas une décision tactique, pas plus qu'elle n'a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l'aboutissement logique d'une réflexion approfondie, et lorsque nous annonçons notre retour, nous ne demandons la permission à personne pour obtenir notre droit légitime. En tout état de cause, le Maroc est de retour pour retrouver sa place naturelle. Il dispose d'une majorité écrasante pour occuper son siège au sein de la famille institutionnelle africaine.
Hassan Diop, on se souvient du départ du Maroc, qui avait lieu pour protester contre la mission du Sahara occidental, qui demeure membre de l'Union africaine.
Absolument.
Le Maroc étant de plus en plus influent sur le plan économique en Afrique, est-ce un retour sans condition?
Apparemment, le roi est tout à fait réaliste, hein, pragmatique, on le voit, il se mouille la chemise, il y a les institutions bancaires dont on parlait avant cette émission, effectivement, marocaine, qui aujourd'hui ont ouvert le chemin, et donc, voilà, le roi veut réintégrer l'Union africaine sans pour autant demander le départ du Front Polisario. Mais malgré tout, il y a l'Algérie qui est le grand parrain du Front Polisario qui essaye finalement de freiner cette réintégration du Maroc, ce qui est à mon avis juste une façon d'embêter et de politiser finalement ce retour. Or, véritablement, les objectifs de ce retour dans l'esprit du roi du Maroc, ce sont d'abord des objectifs économiques. Mais là, cette fois, on peut utiliser à bon escient peut-être le terme gagnant-gagnant. Et on voit que le roi du Maroc multiplie chaque année, il fait plusieurs visites à travers le continent.
Qui durent des semaines. Hein.
Voilà. Et moi, j'avoue que de ce côté-là, il m'a bluffé, parce que je dirais que c'est une façon quand même de montrer son attachement à l'Afrique subsaharienne.
Il y a une bataille de leadership entre le Maroc et l'Algérie.
Il n'y a pas photo. En tout cas, il y a le Maroc, pendant une douzaine d'années, a mené une diplomatie économique extrêmement intelligente et qui épouse la réalité du terrain de l'Afrique de l'Ouest notamment. Maintenant, ils montent d'un cran et ils vont vers les autres espaces, les autres Afriques. Et je pense que aujourd'hui, le Maroc entre par la grande porte. Il a aujourd'hui un pouvoir d'influence et une zone d'influence, et je pense que aujourd'hui le combat entre l'Algérie et le Maroc est vraiment d'arrière-garde, parce que les Africains ont assez de ce combat qui est absolument inutile. Et je pense que l'Algérie et le Maroc doivent s'approcher, dialoguer et cesser surtout d'être dans cette guerre d'influence. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la commission de l'Union africaine, dans les prochaines semaines, va nous montrer, en tout cas, ce retour, la réintégration du Maroc, et puis aussi une redistribution des cartes à l'intérieur de la commission aussi.
Le roi du Maroc l'a d'ailleurs qualifié de légitime, hein.
Absolument.
Ce retour. Autre point à l'ordre du jour de ce prochain sommet, Joachim Bokuma, c'est l'élection du président de la commission. 5 candidats sont en lice, et pour l'heure, aucun ne semble faire l'unanimité.
Oui, c'est 5 candidats qui ont des factures plus ou moins différentes selon les candidats. Et je me rappelle que lors de la précédente du précédent sommet, les chefs d'État
tenu à Kigali au mois de juillet,
oui, avaient estimé que c'était assez méprisant d'ailleurs pour les candidats qui avaient été retenus, parce qu'il y a quand même un délai dans lequel il fallait s'inscrire et présenter sa candidature. Et quand ce délai est terminé, on a estimé que les candidats qui étaient retenus n'avaient pas la prestance ou le prestige pour incarner l'Union africaine et la commission de l'Union africaine. Et on a encore trouvé des astuces pour ouvrir une seconde liste. C'est quand même assez surprenant. On espère que le sommet de fin janvier va permettre de désigner le prochain président de la commission de l'Union africaine. La question est de savoir, est-ce que réellement les chefs d'État, parce qu'en réalité, le président de la Commission de l'Union africaine n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir. Ce sont les chefs d'État qui lui donnent les pouvoirs, qui l'exercent. Est-ce qu'ils vont se donner vraiment les moyens pour que l'Union africaine soit vraiment autonome financièrement et ne dépende plus des soutiens financiers extérieurs, oui. Ce qui est quand même aberrant. Le siège a été fourni par la Chine. Les plans de financement viennent de l'extérieur.
75% du budget vient en
pour un continent qui se veut autonome, indépendant. C'est quand même assez désolant.
Hassan Diop, un mot sur Madame Ladimi Zuma. Que faut-il retenir de son bilan à la tête de la Commission?
Un bilan très mitigé, voilà, pour ne pas être méchant. Je pense que ça ne laissera pas de grands souvenirs à la tête de l'Union africaine, à l'aune de la crise au Burundi. D'autres crises sur le continent, Soudan du Sud, par exemple, etc.
Elle a été inaudible.
Elle a été complètement inaudible.
Surtout sa tête. Voilà.
Je pense qu'elle était à la tête de l'Union africaine, surtout pour avoir une position de visibilité, pour mieux rebondir dans son pays une fois de retour chez elle, quoi. C'est-à-dire, elle lorgne sur la présidence.
Avant de terminer, de refermer cette émission, je vous présente deux magazines, Enjeux africains, avec un dossier consacré aux banques en RDC, et New African, dont vous êtes le directeur de la publication, Hichem Ben Yaïch, dont le dossier principal porte sur l'Afrique qui prend en main sa défense. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Joachim Bokuma d'Enjeux africains et Hichem Ben Yaïch de New African Magazine. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.